France Inter.
C'est la grande
Bonjour à tous.
Avec Lisa, avec Mathieu, avec Mélodie, avec Julie,
c'est moi.
Mais oui, bonjour les amis.
Donc comme Mélodie,
notre invité Marie Le Pen.
On est vendredi, on est comme ça.
Oui, on est en forme. Bienvenue, Alena, ravi de vous accueillir à ce micro. On va évoquer les idoles de Christophe Honoré. Petit tour de table. Oh. Avez-vous eu des idoles Avez-vous eu des idoles enfants ou ados? Avez-vous eu des posters dans la chambre ou
Oui. Moi, j'avais deux idoles à l'époque. C'était Renaud et Jacques Higelin.
Donc, vous aviez le poster dans la chambre.
Oui, et Barthe Abbas.
Mmh. Ok, cheval. Voilà. D'accord.
Et cheval, extrêmement viril, j'étais jeune. Et Jacques Higelin, c'était vraiment mon idole et j'ai eu la chance de le croiser rue des Lombards dans un resto de nuit très tard, j'avais 16 ans.
Et où il m'avait dit... Où il jouait jusqu'à plus soif.
Ouais, enfin là, il jouait pas, il dînait, je pense. Et il m'avait regardé tout ça, il m'avait dit « tu seras une star ». Et moi, je l'ai cru. Et j'ai arrêté d'aller au lycée pendant 2 ou 3 jours. J'étais allongée sur mon canapé comme Agrippine de Bretéché, là, comme ça, je me la pétais. Ouais. Et j'appelais mes copines en disant, je vais être une star.
Non, parce qu'il n'a pas eu tort. Voilà. Ouais, au moins, il faut reconnaître ça.
Il l'a dit à beaucoup de gens et en proportion.
Oui, je suis encore sur le canapé.
Je suis une star et j'aime bien commencer la journée en disant ça.
Mais là, tu avais une ou des idoles.
Deux posters dans ma chambre. Magic Johnson.
Ok.
Et Jordan.
Ah oui, que basket.
Ah ouais, ça se tient.
Ouais, c'est pas trop diversifié. T'aurais pu avoir.
Non, sur le
Molière.
Tard, j'ai. Non.
Non, ok,
pas. Je jouais pas au basket. Hein.
Non, j'ai un poster de Molière
alors, crois. Ah oui.
Ah oui.
T'as pas ça, toi Lisa.
Bah, Britney Spears, c'était Britney Spears.
Ah ouais.
Et genre, poster, le cahier texte, t'avais le cahier.
J'avais le poster, j'avais le cahier avec les affiches, j'achetais tous les magazines.
Ok. Ouais. Rebecca.
Moi, c'était Whoopi Goldberg, parce que j'étais fan de Sister Act et de Ghost, parce que je trouvais extraordinaire cette palette.
Ghost, c'est un complexe.
Vous êtes glottophobe.
Julie.
Moi, c'était Robbie Williams.
Ah ouais. Qui a un sublime film.
Documentaire, il faut que j'aille le voir.
Ouais, non, c'est pas un doc, c'est un film. C'est une fiction où on ne le voit pas, mais on l'entend pendant tout le film. C'est un singe qui joue à sa place.
Et quand
je lui ai demandé pourquoi un singe, il m'a dit « La manière dont on se voit n'est jamais la manière dont les autres vous voient. »
Mais tu as parlé avec lui, tu l'as rencontré.
Il a présenté le truc au Grand Rex.
C'est pas une avant-première.
Ouais, j'avais pas le mot. Et je vous donne ce que j'ai.
L'idée de
dire...
J'ai trouvé génial l'idée de dire les autres ne me voient pas comme on se voit soi, donc on va mettre...
Compliqué cette phrase.
J'adorais, j'étais vraiment fan.
Mélodie.
Moi, Leonardo DiCaprio, évidemment, après Titanic, je l'ai chez le poster.
Il y avait de la place sur la planche.
Mais pas de sport.
Non,
apparemment personne. Non, Old Laugh.
Moi, c'était les Beatles.
Je mépris.
Les Beatles.
Les Beatles.
Connais pas.
Groupe de ma jeunesse. Ah, c'est super.
Daniel, c'est là où on voit la différence avec Lisa. Il y a Britney Spears et les Beatles.
Moi, c'est qu'elle est plus jeune, quoi. Enfin,
Jacques Brel.
Tout simplement, Marcel Proust et Gilles Deleuze. Du côté sportif. Non, Tino Rossi, évidemment.
Alors,
réponds pour de vrai. T'avais quoi dans ta chambre ?
Aucune idole.
Aucune, jamais.
Je m'attendais.
Il n'y avait pas de chambre.
Alors moi, j'avais un groupe qui a disparu de la circulation qui s'appelait les Rubettes.
Ça n'a pas disparu.
Totalement,
jamais.
Totalement.
Sugar Baby Love.
Ouais. Et Pelé, parce que c'était le premier autographe que j'ai eu de ma vie. Pelé, qui était venu à Cannes faire le film de François Reichenbach, enfin présenter le film, et j'avais eu l'autographe, je m'étais plus lavé les mains, encore aujourd'hui, depuis que je lui avais serré la main, et j'avais l'autographe de Pelé. Ouais. Les idoles, c'est important, c'est le point de départ d'ailleurs de ce que Christophe Honoré a composé comme spectacle, a organisé avec vous dans le rôle d'Hervé Guibert, c'est-à-dire qu'en fait il a réuni les idoles, celles qu'il n'a pas pu croiser, en entamant un dialogue entre elles, mais pas un dialogue d'idoles non plus, c'est un dialogue un peu post-mortem, mais qui se raconte.
Oui, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de les mettre au panthéon, c'est un hommage très aimant, mais pas respectueux, timide. Mmh. C'est-à-dire qu'il a, je pense qu'il a envie de raconter les œuvres et les hommes. Et il n'y a pas de doute que ces hommes-là ont été des grands hommes et des tout petits.
Tous morts du sida, ou en tout cas dans ces années sida.
Ils sont tous morts du sida, en l'occurrence. Ceux qui, sur scène, il y a donc Coltès, Collard. Lagarce, Collard, Guibert, Danet et Jacques Demy, qui sont tous morts du sida, en effet. Et c'était les gens, surtout peut-être Jacques Demy, c'était les gens qui ont qui lui ont certaines donné l'envie, puis la force de venir à Paris faire du cinéma, et il s'est vraiment accroché à ces modèles-là pour trouver l'audace, lui, petit provincial. C'est des images dans lesquelles il s'est projeté, et qui lui ont donné la force de devenir...
Il le dit même en voix off, c'est une chorégraphie qu'il a vue à Beaubourg, ne sachant même pas qu'à Beaubourg il pouvait y avoir des spectacles, il pensait que c'était un musée, qui lui a donné envie, pas d'internet.
Il y a plein de gens qui ne savent pas encore qu'il y a des spectacles à Beaubourg.
Pas d'internet à l'époque, donc il a fait des recherches pour savoir qui était le chorégraphe.
En fait, il assiste à un spectacle de Dominique Bagouet et ressent une émotion très spéciale en voyant les danseurs, tout ça, et il comprend qu'en fait c'est une représentation hommage posthume à Bagouet qui vient de mourir du sida.
Donc vous l'avez dit, Serge Danet, Jacques Demy, Jean-Luc Lagarce, Bernard-Marie Coltès, pardon, Hervé Guibert, Cyril Collard. On voit d'ailleurs que toutes les professions sont représentées, dramaturge, écrivain, critique, réalisateur, chorégraphe. Enfin, tout ça a été suffisamment éclectique pour donner des dialogues et des bras de fer par moment, parce que ça se prend la tête aussi, c'est assez impressionnant.
Et des moments drôles aussi. C'est vraiment très drôle de comédie.
Oui, bah, je pense que l'humour est une arme dont je n'ai pas de doute que ces gens-là s'en sont emparés au moment où ils mouraient très jeunes. Cette maladie-là, elle est très spéciale. Peut-être qu'on a oublié. C'est intéressant ce que rappelle le spectacle, c'est que c'était une maladie qui touchait des jeunes, qui mouraient dans la honte, qui étaient traités quand même comme des parias.
Oui.
Absolument. Donc, et je pense que ça, on l'a oublié parce que, Dieu merci, maintenant c'est
on est passé à autre chose.
On est passé à autre chose grâce au progrès de la médecine, évidemment. C'est-à-dire, c'est plus une maladie à l'époque. Moi, c'est la, c'est
on
la
sait
maladie
comment,
de ma
sait
génération.
Comment la prévenir aussi maintenant par les préservatifs déjà dans un premier temps.
Les préservatifs, la PrEP. Aujourd'hui, grâce à la trithérapie. Non, mais bien sûr, les conditions de vie des séropositifs ont considérablement changé, même l'espérance de vie. À l'époque, quand nous on avait 20 ans,
c'était condamné.
Les gens mouraient en deux ans, grand max.
Ouais, c'est vrai.
Et puis la déchéance était rapide, terrifiante. Et surtout, moi, je me souviens, et puis on l'a vu dans... Enfin, je veux dire, 120 battements le raconte très bien. Il y a plein d'œuvres de récits qui le racontent très bien. C'était des gamins donc, qui étaient frappés par cette maladie, mais qui ne pouvaient pas partager, par exemple... C'était très difficile de se retourner vers ses parents parce que l'annonce de la sérologie, ça voulait aussi dire probablement l'annonce de l'homosexualité, voilà. De la sexualité, tout ça. Donc c'était, moi je me souviens très fort de la peur et de la honte.
Ça se joue à la Porte Saint-Martin. C'est une reprise, hein, puisque vous avez eu un Molière même pour l'interprétation de votre rôle d'Hervé Guibert. On va en parler jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Old Love qui est tellement fan de vous, Marina.
Oh, voilà. Oui.
Je suis fan depuis les Robins des Boys. Je me sens proche de vous depuis Fille perdue cheveux gras. J'ai perdu tant de filles tout pile à cause de ça. Je suis fan de Marina, de la comédienne par des parkings pour les trois mains. Pourtant dans le collectif 50-50 contre les violences, vous devez être habitué au gros port de plaisance. Et vous êtes ici pour la pièce Les Idoles. Ça parle des gays mais pas comme dans la cage aux folles. Dans les deux, il y a zéro, mais là, c'est positif. Moi, mes idoles, à moi, c'est plus lié au soutif.
Quoi ?
Wow.
Tu veux pas faire boys,
si. Voice, elle kiffe jouer Hervé Guibert. Voice, peut-être un deuxième Molière. Voice, une pièce à l'ambiance sympa. Voice, tout le monde a le sida solo.
Ah.
Je suis fan de Marina Foïs. Depuis Police, j'avoue que j'aime bien la police. Depuis Rire, j'aime bien les moteurs à hélice. Depuis Énorme, j'atteins les 110. Je suis fan de Marina, mais j'ai quand même un stress. Moi, je veux pas que Daniel y regarde vos fesses. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Oui, c'est une référence, ne t'inquiète pas Daniel, je ne veux pas que tu... Non, c'est une référence...
Robin.
Robin, évidemment.
Qui fait ton cul.
Et...
Oui, c'est vrai,
c'est vrai. Mais là, hors contexte, c'est vrai que ça ne prend pas la même dimension. Il est où, Aldela?
Toujours en tournée dans des villages imaginaires. Le 30 janvier à La Roche-Molière et le 31 à Fézin.
Ce mec n'a une fausse vie. Les idoles, de reprendre un rôle qui a été récompensé par les Molières, il y a une part de risque aussi à le faire ou un véritable
plaisir. On le retire?
Non, non, je ne sais pas.
À titre posthume?
Non, de dire j'ai vécu quelque chose de formidable.
Non, la vraie difficulté, moi j'ai trouvé, puisqu'on a répété depuis une semaine, c'est la mécanique, elle revient, les places, on est capable de dérouler le spectacle et tout, la sincérité, le présent,
la
gravité quand il... Ouais, bah, il faut réinventer, mais se reconnecter à pourquoi on dit ces choses-là ou pourquoi on fait ces vannes-là. Parce que le spectacle est un équilibre entre des choses graves et douloureuses et des grosses conneries. Il faut trouver la vérité de ces deux moments. Et le plus difficile, c'est retrouver la vérité et la nécessité de dire ces choses.
Donc vous n'avez douté de rien lorsque
quand
vous avez dit vous reprenez le rôle d'Hervé Guibert.
J'ai eu envie, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de théâtre, puisque c'était il y a 6 ans, ça fait 6 ans que j'en ai pas fait, et que c'est vrai que c'est une alternance un peu nécessaire, celle du cinéma et du théâtre. Alors, irrégulière, hein, moi c'est une fois tous les 6-7 ans, mais c'est une énergie, une concentration qui est très différent, donc c'est bien de casser un peu les rythmes, quoi.
Vous n'y allez pas pour rien, en plus au théâtre à chaque fois, c'est des metteurs en scène super, c'est des pièces qui sont fortes, c'est pas juste un passage au théâtre.
Moi j'adore le travail de Christophe Honoré depuis toujours, ça a beaucoup de sens pour moi de travailler avec lui pour plein de raisons, parce que en plus de l'admiration, il y a quand même un truc qui ressemble à l'amitié, donc ça c'est pas désagréable. Et puis j'aime aussi beaucoup cette équipe, Marlène Zaldana, Jean-Charles Cliché, Harrison Arévalo, Paul Kircher qui arrive et qui reprend le rôle de Coltès, et je suis absolument sous le charme de ce gosse, qui est un gosse mais que je trouve d'une intelligence, d'une audace et d'une liberté hallucinante, il me fascine. Voilà, il y a aussi Julien Honoré, voilà.
La distribution, en effet, c'est Harrison Arévalo qui joue Cyril Collard, Marlène Saldana qui joue Jacques Demy.
Qui mérite un Molière aussi.
Elle en mérite deux ou trois.
Julien Honoré qui joue Jean-Luc Lagarce, Jean-Charles Cliché qui interprète Serge Danet, Youssouf Abiyayat, donc qui n'a pas repris son
rôle. Pas souhaité reprendre et qui le rôle est repris.
C'est Paul Kircher.
Par Paul Kircher.
Voilà. Jouant Bernard Marie Coltès. Scénographie donc signée Alban Ovan. Les costumes de Maxime Rapaz. La lumière de Dominique Bruguière. Tout ça, ça commence du 18 janvier. Donc à partir de ce samedi jusqu'au 6 avril. Les mardis et vendredis à 20h. Le samedi à 20h. Du mardi au vendredi à 20h, le samedi à 20h30, le dimanche à 15h.
Et je connaissais pas les horaires, donc je vous remercie. Comme ça, je serai à l'heure.
Essayez d'arriver à l'heure. On en parle jusqu'à 12h30, mais d'abord voici Lisa Delmoitier. Vous n'auriez pas fait une pièce comme ça sur les idoles.
En fait, je me rends compte que moi, j'ai pas idolâtré beaucoup de gens dans ma vie. Bon, faut me comprendre, le nag.
À part Britney, quoi.
C'est à part Britney, ouais. Mais je pense que c'est une question de génération. Hein. C'est une façon polie de dire que quand je suis née, vous commenciez déjà à cotiser pour votre pension. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les stars de votre jeunesse, à vous, étaient mystérieuses, quoi. T'as beau dire, ça maintient le mystère autour des acteurs, quand même, le cinéma muet. Non, bon, pas si vieux que ça. Non, mais avant Internet, les stars étaient mystérieuses, énigmatiques. Pendant l'épidémie de sida, elles mouraient d'avoir trop vécu. Moi, mes stars à moi, elles sont sur Instagram. Pendant l'épidémie de Covid, elles faisaient du pain.
Elle gonflait d'avoir trop mangé de gluten. C'est pas la même chose, quoi. Après, je suis pas de la team, c'était mieux avant. J'apprécie l'accessibilité des artistes de mon époque. Un idole, au sens classique du terme, c'est la représentation d'une divinité. Mm. Bon, ben non. Mes parents m'ont pas élevé athée pour qu'au final, je vénère Vita. Non. Je préfère encore le maigrichon sur sa croix. Non, un autre avantage de mon époque par rapport à il y a 30 ans, c'est qu'on peut vivre avec le sida, on peut vivre bien avec le sida. Quel progrès, quand même, depuis les années 90, quoi. Le sida soigné n'est plus contagieux et les Bastric Boys ont fermé leur gueule. Enfin, franchement, quel soulagement, quoi. Dieu est grand. Enfin, Vita. Non, même si ça n'empêche pas les discriminations. Il y a encore des pays aujourd'hui qui interdisent l'accès sur leur territoire aux personnes positif comme l'Iran ou l'Irak, c'est terrible. Même si bon, je vous avoue que si j'ai un jour le sida, le premier truc que je me dirais sera sûrement pas putain. C'est ce qui me ferait du bien là, un city trip à Bagdad. Ah ben non, je peux pas. Bon, l'un dans l'autre, il y a des discriminations qui t'handicapent moins que d'autres quand même. C'est comme l'époque où les femmes pouvaient pas rejoindre l'armée. Je comprends la lutte pour l'égalité, mais parfois quand je vois pour ce qu'on se bat, je me dis vraiment les sœurs, c'est ça la priorité. Perso, avant d'exiger le droit pour nous aussi de perdre nos jambes en Afghanistan, j'aurais insisté sur celui de plus s'épiler le maillot. Mais enfin bon, je suis pour juger. Tu vas me dire l'avantage quand t'as perdu tes jambes au combat, c'est que tu dois plus t'épiler le maillot. Pas de bras, pas de chocolat, pas de jambes, pas de ticket de métro. L'épilation, je veux dire, pas le titre de transport. Oui, oui. Ça dit, je suppose que si t'es cul de jatte, t'as pas besoin de ticket, tu peux passer sous le tourniquet. Enfin, tout ça pour dire que les années 90, dont il s'agit dans la pièce Les Idoles, ont été marquées par l'épidémie de sida. Moi, je suis née en 91, donc je suis de la génération d'après. Moi, je suis de la génération parano. J'ai pas vu de gens mourir du sida, mais j'ai appris à mettre une capote avant d'apprendre à marcher. Mm. Mais souvent, quand on en fait l'une, t'es à quatre pattes. Vraiment, moi, je suis extrêmement parano avec le sida et les MST de manière générale, parce qu'on en a eu des caisses hein, en cours de prévention. Moi, vraiment, j'ai appris ça toute ma vie à mettre une capote. C'est une grande angoisse que j'ai. Moi, je fais hyper gaffe. J'ai toujours une capote sur moi. C'est extrêmement pratique. Hein. Un goûter d'anniversaire impromptu et hop, tu peux gonfler un caniche en latex. Enfin, on n'est pas là pour parler de mes préliminaires préférés. Ce qui est fou, c'est que le sida est une maladie qui a touché beaucoup d'artistes, comme Hervé Guibert, que vous interprétez, Marina Foïs, Jacques Demy, mais aussi Anthony Perkins, Freddie Mercury. Je me demande si les autres maladies sont jalouses. Pardon, il y a quand même une autre gueule, le coin VIP de l'ostéoporose, quoi. Et Hervé Guibert, il a écrit « J'ai eu le sida pendant 3 mois, alors qu'il en a souffert plus longtemps, mais parce qu'au-delà d'être des artistes, c'était des gens jeunes, quoi, qui voulaient pas croire qu'ils allaient mourir. Et c'est vraiment ça le plus tragique, ce sont souvent des talents qui ont même pas eu le temps de s'exprimer complètement. Donc bravo Marina de leur redonner une voix, puis moi je vous laisse, j'ai mon combat contre l'épilation à mener.
Bravo. Merci, Elisabeth Moitié. Avec sa capote, elle sera où ?
Alors, elles sont toutes les deux, le 24 janvier à Tournai en Belgique et le 25 à Moucron.
Les Idoles à la Porte Saint-Martin, avec vous Marina Foïs, qui s'échangent donc, et ces échanges dans cette pièce vont plus loin sur notre rapport à la vie, notre rapport évidemment à la mort. Il y a des regards aussi bien qui se projettent que ceux qui regardent en arrière en disant « qu'est-ce que j'aurais dû faire ?»
Oui, enfin, il y a toute cette question de l'aveu, par exemple. Est-ce que il y a une question qui se pose? Alors là, c'est intéressant parce que qui se pose à l'époque en des termes qui ne sont pas les termes d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui vraiment, j'ai l'impression que il y a une chose qui est arrivée nouvelle, c'est que les gens connus se racontent beaucoup au travers de leurs douleurs, de leurs accidents, de leurs maladies. C'est devenu
De leur dépression, c'est-à-dire qu'on peut se raconter beaucoup plus librement.
On raconte beaucoup quelque chose de très intime autour de la douleur, de l'accident. Je ne sais même pas si c'est bien ou si c'est mal. Je crois que partager ce truc-là pour des gens qui brillent et qui ont l'air d'être que beaux et riches, ça aide. L'idée de faire partie d'une communauté, donc je ne juge pas le fait de le faire. Mais à l'époque, se pose beaucoup plus fort la question de l'aveu, qui est quand même liée aussi à la question de la honte. Oui. J'y reviens. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que parce que je suis artiste, je me dois de dire la vérité ? Est-ce que je suis obligée de militer ? Est-ce que je suis obligée de prendre ma part publique de cette souffrance intime ? Et c'est toutes des questions qui restent très actuelles. Et puis, à l'époque déjà, on reprochait beaucoup aux artistes leur prise de parole, leur non-prise de parole, ce qu'ils avaient dit. Donc c'est la pièce, elle brasse toutes ces questions-là.
La pièce est construite comme ça, c'est-à-dire comme des échanges, des débats ou des dialogues, en tout cas entre deux, trois personnages, comme des dialogues avec tous les personnages ensemble, ou des monologues aussi avec des confessions très sincères faites par les
uns. La forme du spectacle, moi, je la trouve hyper intéressante. J'adore le cinéma d'Honoré, mais j'adore aussi quand il fait du théâtre, parce qu'il a ce truc très spécial. Il déthéâtralise et désacralise le théâtre. Et moi, j'adore ça. Parce que moi, je me suis beaucoup fait chier au théâtre. Je me suis beaucoup sentie loin parce qu'on m'imposait une forme qui était une espèce de truc auquel j'avais pas forcément accès. Lui, il casse tout ça. Dans ses spectacles, on voit jamais, par exemple, l'effort du comédien. Il n'y a pas de notion de on est sur une scène, alors on parle fort et possiblement on postillonne. Et si jamais on pouvait ne pas comprendre tout à fait ce que l'acteur dit, alors ce serait un peu la classe. Il y a un truc d'immédiateté, de concret, que moi j'adore. Et du coup, la forme, elle est complètement déconstruite. Il y a des moments où ça parle vite et court, des moments où c'est long et lent, des moments comme
avec micro, sans micro.
Avec micro, sans micro. Ouais, il y a une espèce de liberté formelle totale.
Et puis, une adresse au public.
Une adresse au public. Ouais, il y a pas ce fameux quatrième mur. Enfin, on n'est pas. Il ne met pas ses idoles sur un piédestal. Il met pas ses acteurs sur un piédestal. Il met pas le théâtre sur un piédestal. Il y a une espèce de truc un peu entre mi-pop, mi-documentaire, une espèce de forme hybride que moi je trouve vachement intéressante parce que c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, dont la pensée est super élaborée, mais par exemple, quand il avait fait un spectacle qui s'appelait Nouveau Roman, sur Nathalie Sarraute et tous ces auteurs-là. Et moi, j'y vais, pourtant c'est mon ami, mais avec des pieds de plomb, en me disant, putain, mais Nathalie Sarraute, j'ai lu une demi-pièce, je suis un culte, ça va me passer là et tout. Et en fait, c'est quelque chose qui s'évanouit en une demi-heure parce que, par son sens du concret, du vrai, de la vérité, et que au fond, il n'y a pas besoin d'avoir fait des longues études pour avoir accès à plein de choses qui sont l'art, qui sont des auteurs, le cinéma, tout ça. Et c'est une démarche que j'aime vachement, moi, dans ce.
Alors, quelle est la difficulté dans la mise en
scène?
Sans
être démago, c'est ça qui est bizarre, ouais.
La difficulté dans la mise en scène des idoles, c'est cette espèce de chorégraphie qu'il y a entre vous tous, c'est de ne pas se couper la parole, parce que ce qui est fort, c'est qu'il y a des moments.
La difficulté, c'est comme dans toutes les pièces, et comme au cinéma, c'est l'écoute. Il faut s'écouter. Si t'écoutes pas l'autre, tu sais.
J'allais dire, il y a des moments où vous parlez tous en même temps, mais avec, comme dans la vie, en fait.
On a un peu tous les droits, en fait. On n'est pas obligé de reprendre exactement les mêmes places. L'idée, j'ai l'impression, c'est de faire vivre la vérité du moment, qui est une des grandes règles d'un plateau de cinéma. Ce qui compte, c'est ce qui se passe au présent. C'est pas l'idée qu'on a eue il y a 6 mois. C'est chiant les idées en fait, ça rend pas les choses vivantes. Le présent, hyper important. Dans le présent, si j'ai envie d'aller là-bas, oui, sauf que s'il y a Marlène qui doit danser dans ce coin de la scène, je vais pas aller l'emmerder dans son espace. Donc c'est être très connecté à soi-même et aux autres. Et dans cet espace-là, se faire son petit chemin chaque soir.
Qu'est-ce que vous aimeriez entendre dire de la part du public en sortant du théâtre? C'est pour eux, pour vous, il est important qu'ils apprennent des choses, qu'ils découvrent des choses, qu'ils aient un rapport à la mort différent aussi.
Si on a cette ambition-là, alors c'est extra. Non,
c'est un peu ce qui se passe. Bah si.
Je dirais peut-être de manière très pompeuse le devoir de mémoire. C'est-à-dire que je trouve que c'est trop pompeux. Mais bon, bref. Ça m'intéresse de re-raconter cette épidémie et cette maladie qui était hyper politique.
Prenons l'histoire de Cyril Collard, il était accusé de tous les maux.
Ben, en fait, on a raconté quand le sida est apparu, et d'ailleurs ça a beaucoup fait
le réalisateur des Nuits Fauves
à l'époque. On parlait d'un cancer gay, un cancer qui toucherait que les gays. Et Guibert raconte que Michel Foucault, il s'est pissé dessus de rire en disant « Ah mais non, mais ce serait magnifique, s'il y avait une punition divine, ce serait extraordinaire, l'idée est marrante. » Sauf que ça a été vécu comme ça. Ce qui fait que, par exemple, les pouvoirs publics n'étaient pas si intéressés que ça.
C'était les trois H, c'était les homosexuels, les hémophiles et les haïtiens.
Ouais, c'est vrai.
C'était comme ça, c'était désigné à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Donc, en fait, c'est les victimes, en fait, les homosexuels, les gays, qui ont dû se regrouper et lutter notamment pour obtenir le remboursement à 100%, parce qu'à la fin, c'était des maladies dont ils crevaient sans être remboursés. Il y a une scène que décrit Guibert, ils étaient pour être soignés, ils allaient au fin fond d'un hôpital, Claude Bernard tout en haut, perdu, il n'y avait pas de chauffage, les infirmières, tout le monde était parano, ils avaient peur d'être contaminés, ils étaient traités comme des kleps. Donc, c'est intéressant. Nous, depuis qu'on a joué, il y a eu l'épidémie du Covid.
C'est l'histoire de Rock Hudson
Rock Hudson, c'est terrible. Il vient à Paris qu'il entend parler. C'est donc un acteur américain très connu, tout ça. Et il entend parler d'un nouveau traitement qui est mis au point par un médecin français à Paris. Donc il vient dans l'espoir de bénéficier de ce nouveau traitement. Et puis il se rend à l'hôpital américain pour rencontrer ce médecin. Il fait un malaise. Du coup, son attaché de presse est obligé de faire l'annonce devant l'hôpital que Rock Hudson est là et qu'il est malade du sida. À ce moment-là, l'hôpital se vide. En deux secondes, les femmes enceintes, les médecins, les infirmières, tout le monde se barre. Ils ont peur de choper le sida.
Parce qu'on ne sait rien aussi à l'époque. C'est comme le Covid qu'on a traversé en 2020. C'est-à-dire
absolument.
On ne sait pas, donc les gens...
La différence qui est intéressante avec le Covid, c'est que les victimes, elles avaient toute notre empathie, parce que c'était des personnes âgées. Le sida, les victimes n'ont aucune empathie, parce que c'est des gays...
Et c'est lié à la sexualité.
Voilà. Et des gays, des tox et des haïtiens. Donc en fait, ça regroupe... Ça n'intéresse pas les gens. Et ça, c'est quand même... C'est bien... Ouais, de le raconter, en fait.
L'hôpital se vide. Et on le renvoie chez lui.
Il est au Ritz. Et là, il faut qu'il retourne, il décide, puisque bon, il faut qu'il rentre aux États-Unis. On cherche une place dans un avion.
C'est fou, ça.
Il demande 4 places pour pouvoir le mettre sur un brancard. Il n'y a aucune compagnie qui veut lui donner 4 places parce qu'il a le sida et qu'ils ont peur qu'il contamine tout l'avion. Donc, ils sont obligés d'affréter un Boeing vide dans lequel il voyagera toute seule. Ça coûte 1 000 euros. Donc, il rentre dans un avion vide pour contaminer personne. Enfin, ça paraît un film presque mal écrit. C'est une mauvaise fiction, en fait. Mais c'était la réalité.
Et puis, il y a aussi la réalité des stars qui commencent aussi à se réunir. C'est Elizabeth Taylor qui prend la première la parole, qui soutient justement Rock Hudson, qui réunit des fonds, qui demande de l'argent pour la recherche. Ça aussi, tout ça est expliqué. C'est toute une génération qui s'est serré les coudes aussi.
Oui, il y a eu Elizabeth Taylor aux États-Unis, Lynn Renault en France, puis d'autres, comme ça, qui ont pris la parole alors qu'elles étaient pas... directement concernés par la maladie, parce que c'est vrai que les hétéros dans un premier temps étaient plus à l'abri. Après, c'est quand même générationnel. On a été touchés de manière très proche. Enfin, moi, c'est la vérité de cette génération. Moi, j'ai enterré, je sais pas, entre 20 et 25 ans, 5-6 potes. C'est une génération qui sera quand même marquée par ça, par la mort si jeune, en fait. Oui.
Et en effet, il y a ce travail de mémoire, comme vous dites, dans cette pièce, Les Idoles, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ça sera à partir de ce samedi, avec Marina Foïs, Harrison Arévalo, Jean-Charles Cliché, Julien Honoré, Paul Kircher, Marlène Saldana, qui fait aussi Elisabeth Taylor, si j'ai bonne mémoire, c'est elle qui fait les deux. Non,
elle fait Jacques Demy, voilà.
Et Lucas Ferrat.
Elle fait pas mal de trucs dans cette scène, parce qu'elle sait tout faire.
Et puis elle danse, incroyablement.
Elle fait des claquettes, elle chante.
Elle était récemment
au théâtre. C'est une américaine, Marlène Saldana.
Ah ouais, incroyable.
Tout ça donc signé Christophe Honoré. On en parle jusqu'à 12h30. Voici Rebecca Balestra.
Mais encore ces faux applaudissements ?
Oui.
Et non, mais nom de Dieu. Est-ce que vous êtes tellement en frousse que c'est trop de boulot de vous demander de taper dans vos mains, bande de tirs au cul ?
On le fait en même temps.
En fait, ça vous arrache la gueule d'encourager quelqu'un. Quelle attitude de merde. C'est pour ça que personne n'a regardé vos bravos d'or, Leïla et Nagui. Les Français, vous applaudissez pas. Vous préférez huer comme à Roland Garros.
Ouais.
Votre trophée en forme de main qui clappe, vous auriez dû le mouler en forme de poing rageur, de pouce vers le bas, de majeur tendu. Là, les gens se seraient posé moins de questions, notamment celle qui est revenue le plus. Pourquoi la caméra filmait tout le monde de dos? Mais qui sont cons. Mais parce que Gérard Pulicino à la réalisation, lui, sait ce qui intéresse les Français. Le cul. Le cul et les grosses... Je monte mes loges sur France Inter. Pour ceux qui matent, vous pensez peut-être que je milite pour le droit des femmes, pour l'allaitement en public, pour la prévention du cancer du sein. Que dalle! C'est juste pour booster l'audience avec mes boobs et faire bander la bande originale. Parce que maintenant que je bosse pour vous et qu'Adèle Fonrette a dit que France Inter, c'était une radio qui ressemblait aux Français, ben voilà mes cochons! La Gaule, c'est vous, non? Le French Cancan, le Moulin Rouge, les pelles avec la langue, Pigard, Bigard, Bois de Boulogne, les opéra fouf d'Offenbach, Courbet et son anatomie d'une chatte, c'est vous. Le Cap d'Agde, c'est vous.
Oui.
Canal Plus après minuit, c'est vous. La syphilis, c'est vous. DSK, l'abbé Pierre, c'est vous.
Oh.
Daniel Morin, c'est toi. Ça t'excite, hein, ces grosses balles, Franck Leboeuf. Heureusement que Cominec n'est pas là. Il aurait renversé la table avec sa trique. Là, il a chaud, Alex, mais c'est pas parce qu'il est à Maurice, c'est parce qu'il est en train de se secouer le coco devant la bande originale. Hein, l'émission la plus écoutée de France. Pourquoi, à votre avis, bande de porc? L'île Maurice aussi. Est-ce qu'il n'y a pas plus vulgose que de faire des vacances à Maurice, à Marrakech, à Djerba la Fidèle? Est-ce que vous êtes cheap, les frouzes? Puis quand vous n'êtes pas dans vos resorts all-inclusive bas de gamme avec votre mojito et votre moule beat speedo à vous faire donner le yoga par Daniel, vous voyagez en Vélib ou en Ouigo avec votre
passe Navigo, mais c'est ignoble.
Violence.
Ce que vous aviez de plus chic et de plus précieux, c'était la langue française. Et maintenant, vous dites la Covid-19. Mais ça me donne envie de vous baffer avec mes loges. Je vous baffe. Même ici, à la radio, qui est quand même le porte-drapeau de l'art oratoire, vous engagez que des gens qui disent trop chelou, meuf, ken et de ouf. C'est d'un grossier. Même vos chroniqueuses, elles ont des noms de niqueuses. Mélodie Fontaine. Si c'est pas, hein, si c'est pas un beau pseudo d'actrice de boulard. Ça. Pardon, ça me fait penser à mon compte OnlyFans, parce que c'est pas avec votre cachet minable que je vais nourrir mes gosses, hein. Puis en plus, maintenant, comble des vulgarités, la radio est filmée, donc je peux faire d'une pierre deux coups.
Non! Mais non!
Tiens, voilà, bande d'obsédés!
Ah.
Il dit à l'oreillette que je dois me couvrir. Bon, à la base, j'avais prévu deux sparadraps couleur chair pour censurer mes tétons, mais ça faisait un espèce de monochrome bizarre. On aurait dit que j'avais deux chauves, deux Daniel Morin qui me pompaient les pneus. C'est fou, Philippe Catherine à poil qui vous montre ses grosses couilles et sa petite bite bleue, tout le monde crie au génie. Mais là, je suis une femme, alors tout de suite, c'est scandale en régie. Couvrez ces seins que je ne saurais voir, Tartuffe, ne te promène donc pas toute nue, Fédo. Vous voyez, Marina Foïs, j'ai des références théâtrales.
Bravo.
Parce qu'en plus d'être une grosse poitrine, je suis une grande actrice, comme ma sosie, Laetitia Casta. Voilà, j'espère que je vous ai donné un pic d'audience dans le slip. Puis pour ceux qui n'aiment pas, comme cette auditrice de Radio France qui commente « Marre de la bande originale et de leurs blagues en dessous de la ceinture », vous devriez être contente, Marie-Jo. Aujourd'hui, l'humour, il était au-dessus de la ceinture.
Merci, Rebecca Maletra. Sans aucun effet spécial. Ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que le papier de Rebecca avance,
Lisa s'écarte.
Lisa vient par cas maintenant.
Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'elle a mis 8 mois à se détacher de la précédente.
Ah, je suis épuisé.
Ouais. On va parler de la musique, parce que la musique est présente également dans le spectacle des Idoles de Christophe Honoré. On ouvre et on ferme avec les Doors.
Qui était la musique de la pièce dansée par Bagouet, chorégraphiée par Bagouet. Jours étranges.
Clin d'œil aussi à Kylie Minogue. Le morceau est chanté dans la pièce, c'est pas, pas repris.
Oui, elle est pas sur scène.
Non, elle est pas là.
Non.
Ici, je m'en vais avant toi. Dis-toi, bien que je serai.
La musique dans la vie de Marina Foïs, on va l'évoquer justement, cette musique que vous écoutez, que vous écoutiez. On recevra également Serge Éphèse, psychiatre, psychanalyste, responsable de l'unité thérapie familiale à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, pour justement nous parler de ces années sida aussi d'un point de vue médical et vécu de l'autre côté, entre guillemets. En 70, j'avais grandi en écoutant... Les Rare Birds. Qu'est-ce que c'était bien ça. On est un peu dans l'ambiance des Doors aussi avec ce morceau. Et avec ce clavier. Que se passait-il dans l'enfance de Marina Foïs, Leïla?
Une enfance culturelle. Est-ce que ça serait juste de dire ça comme ça? Dans un intérêt pour la culture, en tout cas, qui est là au quotidien.
Oui, oui, mes parents allaient beaucoup au cinéma et nous emmenaient au cinéma beaucoup. Ouais, c'est
ouais.
Vrai.
Ouais, au théâtre aussi, ou c'est venu plus tard?
J'ai moins de souvenirs de théâtre enfant que de cinéma.
Vous dites que vos parents formaient un couple de 68 arts, heureux.
Oui, enfin, oui, heureux. Bah, oh, c'est oui, bien, oui, heureux. Ils s'aimaient, quoi. Ouais. Donc, ouais, oui.
Ça vous a étonné. Oui, c'est ça, c'est pour ça, ça vous a étonné que je dise heureux, mais.
Non, non, mais parce que c'est un résumé. Puis heureux, je sais pas trop ce que ça veut dire pour. Mais oui. C'était des gens qui s'entendaient bien et qui avaient une vie plutôt peinard parce qu'ils avaient des métiers intéressants et gagnaient bien leur vie avec 4 gosses, une maison et une maison en Italie. Donc oui, c'était le confort. Oui,
oui au moins
je crois
confort.
qu'ils étaient heureux. Ouais.
Et vous dites, vous dites que c'était un peu marginal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la télé à la maison,
non,
on mangeait pas.
C'était super marginal. On était des. Ah non, moi j'ai une enfant, j'ai eu beaucoup honte.
Ouais.
Parce que mon. Père, il avait un accent, puisqu'il était italien. Ça, c'est quand même relou. On mangeait beaucoup de chili con carne.
C'est relou, c'est plutôt chic. Et
aujourd'hui, je trouve ça hyper chic et l'accent italien me fait mourir de beauté.
Bah
mais,
oui.
Bah ouais, mais quand on est gosse, Nagui, vous devez le savoir, on n'a pas envie de s'appeler Marina, on n'a pas envie d'avoir un père qui a un accent. On n'a pas envie que toute la famille vienne d'ailleurs.
On veut se fondre dans la masse, quoi.
Bah ouais, on n'a pas super envie d'être juif. Voilà. Bah oui, c'est la vérité. Tout ça sont des, sont des, sont des choses qui vous mettent un peu sur le côté. Après, moi maintenant, je pense que cette identité-là, évidemment, elle a fait qui je suis. Et puis, moi, je suis pour tous les mélanges, toutes les bizarreries, évidemment. Mais en France, les enfants, ils sont réac. Ils veulent être normaux. Moi, je voulais être habillée comme les autres, avoir... Je me souviens, j'allais manger chez une copine. La mère, elle mettait des rondes serviettes pour le dîner. Ils avaient une serviette dans un rond de serviette, un peu comme au restaurant. Moi, je rêvais de cette vie-là. En vrai. Mais nous, ma mère, elle mettait une vieille louche de chili con carne sur la table. Vas-y, allez. On
si, les rondes serviettes aussi, quand tu les cherches, t'as pas ton prénom. Quand t'as un prénom qui
ah bah
n'est
oui.
pas dans le calendrier traditionnel.
Oui. Voilà, bah vous voyez que vous avez souffert, vous
comme
aussi.
Comme les bracelets. Ah bah,
va trouver un rond de serviette marqué Nagui.
Ou le bol breton.
Ah, le pareil, le bol breton.
Il faut le faire sur mesure. Vous racontiez que vous étiez fasciné donc par la normalité. Vous dites les employés de péage sur la route de l'Italie du Sud, ça vous faisait absolument.
C'est moi le premier métier dont j'ai rêvé, travailler dans un péage.
C'est mignon.
Voilà, oui.
Contact avec les gens.
C'était l'angoisse.
Ouais, ouais, hein.
Je trouve que c'était l'angoisse, moi. Bah, les gens qui partent en.
Bah, moi,
en
ça
vacances.
M'intéressait. Après, c'est pas ce que j'ai choisi quand j'ai réfléchi, mais spontanément, ouais. C'est ce dont j'ai rêvé. Ouais. Et oui.
Peut-être une deuxième carrière.
Bah, merci parce que je me pose tout le temps la question. Putain, voilà. Si le cinéma m'abandonne, qu'est-ce que je vais faire? Sauf que, par exemple,
c'est vrai que vous y pensez à ça. Si le cinéma m'abandonne, vraiment?
Bah quand même.
Ouais. Non,
bah
pas.
Oui.
Enfin, il y a plus personne au péage. Laissez tomber, non, c'est automatique maintenant.
Ouais,
voilà.
Marina, pardon, mais c'est aussi l'un des sujets de la pièce. Dans votre enfance, vous en avez parlé, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Vous avez subi une agression.
Ah, oui.
Non, mais si vous voulez pas en parler, on n'en parle pas.
Non, écoutez, Jean, en fait, la vérité, c'est que j'en ai parlé parce que la première fois que j'en ai parlé, je voulais parler des chiffres. Parce que c'était les débuts de MeToo et je disais, je sais plus les chiffres, mais 6 filles sur 10 ont subi une agression sexuelle dans leur enfance. Je voulais parler statistiques. Je n'ai jamais eu aucune envie de raconter mon histoire personnelle parce que je ne pense pas qu'elle soit plus intéressante que ça. En revanche, les chiffres et le combat global à mener, tout ça. Mais à l'intérieur de France Inter, il y a une voix qui est bien plus construite que la mienne. Qui porte le même nom de famille que moi. Donc je lui laisserai parler et incarner tous ces sujets-là qu'elle porte merveilleusement bien. Je parle donc de Julia Foyce, qui incarne ce combat-là de manière spécialement intelligente, mettant à distance les émotions pour faire comprendre la pensée, le système. Voilà, moi j'adore l'écouter, je vous recommande de l'écouter plutôt que moi. Voilà.
Moi je voulais évoquer l'emprise d'un prof de théâtre aussi, parce que vous n'avez pas été la seule à voir des profs qui disent on va faire la scène du baiser, puis on va refaire la scène du baiser.
Ah oui, alors ça j'avais...
Et puis, ouais. on va faire la scène où tu prends la douche, donc tu te déshabilles et ainsi de suite, c'est-à-dire des humiliations que peuvent subir
mais
des
moi,
adolescents.
Non, alors ce qui est marrant, moi, je suis assez gré à MeToo et aux filles qui l'ont incarné parce qu'elles m'ont fait bouger dans ma perception des choses et je pense que ce mouvement, il est nécessaire, il est salutaire. Je bouge à hauteur de mon âge, donc je bouge probablement plus lentement et il y a encore des choses que je ne comprends pas et il y a un fossé générationnel entre la parole des jeunes et la mienne et c'est très sain. Je fais partie des vieux ou des très adultes et la jeunesse m'apprend des trucs, merci, c'est bien comme ça. À l'époque, j'avais un prof de théâtre qui nous faisait monter sur scène pour faire l'impro du baiser. L'impro du baiser consistait tout simplement à ce qu'il choisisse, lui, deux personnes dans la salle qui devaient monter sur scène et se rouler une pelle. Moi, je l'ai fait normal. Ça ne m'a posé aucun problème. J'avais 16 ans. Il se trouve qu'il a choisi Samuel Le Bihan, qui à l'époque devait avoir 18 ans. Mais dans la classe, il y avait des mecs de 35. J'aurais pu tomber sur un truc beaucoup plus malaisant. À l'époque, je suis tombée sur Samuel. Je lui ai roulé une pelle. Tranquille, peinard. Et ça ne m'a pas posé question. Des années après, quand j'entends tous ces témoignages et tout, je me dis... Surtout, je me dis, mais c'était quoi l'intérêt de l'impro, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai appris, moi, en tant qu'actrice, à ce moment-là? À part à me dire qu'il fallait dire oui. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas été traumatisée par ça. Moi, j'appartiens à une génération qui a dit oui à tout très facilement. Je n'ai pas été meurtrie, salie, humiliée par rien de cet ordre-là dans mon métier. C'est pas parce que je dis ça que je mets en doute ou que je questionne la parole de celle qui parle. Et c'est pas parce que mon regard se posait ailleurs. D'ailleurs, il se pose différemment maintenant sur plein de choses. Et je pense que c'est bien. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot.
Et je trouve que c'est super que vous disiez ça, parce que l'enjeu, je crois aussi aujourd'hui dans cette lutte-là, c'est pas d'avoir la même vision selon la génération à laquelle on appartient, mais c'est la nécessité de l'écoute.
Voilà.
Et je trouve que ça, c'est capital.
C'est entendre, écouter et accepter. À nos âges, ça déstabilise probablement qu'on n'a pas raison sur tout. Et que peut-être, il y a d'autres manières de faire. Voilà.
1993, Marina Foïs, vous écoutiez. Ça, c'est tout, mais penserai. Se con i tuoi non parli mai. Se ti nascondi come me. Que raconte les paroles, parce que ça, on n'a pas
la... La solitude, Inem. Bon, c'est la solitude. Ouais, vas-y.
Il se passait quoi en 93, Leïla, dans la vie de Marina Foïs?
Casque bleu de Gérard Jugnot. Ouais, c'est pour la première, c'est votre premier rôle au cinéma en fait, un de vos premiers rôles au cinéma.
Oui, j'avais tourné avant au Québec.
Ouais,
je crois.
Ouais. Ouais. Vous avez été formée notamment par Nada Strancar et Isabelle Nanty,
celui
qui était sur votre chemin lors de votre passage au cours Florent. Et c'est là que vous rencontrez toute la bande des Robin des Bois, enfin en grande partie j'imagine, ouais. Qui va donner lieu ensuite à une histoire qu'on connaît, qui est entrée vraiment dans notre imaginaire aussi quand on regardait la télévision dans ces années-là. Et Isabelle Nanty, sans cesse saluée par tous les membres des Robin des Bois comme une prof qui vous a permis.
Elle a été hyper importante pour nous. Moi, je me souviens très bien. J'ai donc raté le conservatoire plusieurs fois, ce qui m'a mis dans un désespoir total. Et donc, je débarque après avoir re-raté le conservatoire dans sa classe. Et je suis arrivée en retard par rapport à la rentrée scolaire. Et donc, ils sont 30 et ils passent les uns après les autres des monologues. Et je vois 20 personnes qui jouent chacun de manière très différente. Chacun joue comme il est. Et à l'inverse, j'avais été dans une autre classe du même cours où j'entendais un prof dire « il faut, il ne faut pas, on fait pas ça sur scène, on n'a pas le droit d'eux ». Et je trouvais ça hyper chiant. J'avais l'intuition que « il faut ou il faut pas », c'est pas des bonnes idées quand on parle de scène ou de jeu. Et à l'inverse, un prof qui disait, qui aidait un élève à, en gros, à se rencontrer lui-même, à savoir ce dont il avait envie, comment lui, il oserait ou il aurait envie de faire les choses et tout ça. Je me suis dit, ça ressemblait à une vérité qui m'intéressait. Donc j'ai décidé d'aller dans sa classe.
En 2002, Marina Foïs écoutait Eminem. Pourquoi ce titre en particulier?
Je sais pas. Moi, j'ai un rapport à la musique qui est pas du tout. Je suis pas une très bonne oreille. J'ai une très petite culture musicale. Donc, il y a des choses qui me parviennent très fort,
touche, ouais.
Dont Eminem.
Sans spécialement vous attacher à ce qu'il raconte ou.
Ah non, je comprends pas l'anglais. Non, mais c'est un truc beaucoup plus immédiat, beaucoup moins cérébral que ça. Okay. Voilà, j'adore Eminem.
Très bien.
Pas d'oreille musicale et pourtant Claude Duty, qui vous engage dans Fille perdue cheveux gras, vous certifie que dans ce film, vous allez chanter, mais que vous allez être doublé.
C'est pour ça que je dis oui, que si je peux être doublé, car je chante très mal, car je chante faux, car je n'ai pas d'oreille musicale. Voilà.
Et finalement,
j'ai chanté.
Et vous n'êtes pas doublé.
Et vous n'êtes pas doublé.
Arnaqué, quoi.
On continue de parler des idoles avec cette pièce au Théâtre de la Porte Saint-Martin, signée Christophe Honoré. Avec vous, Serge Effez, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Psychiatre, psychanalyste, responsable de l'unité thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous avez été, dès le début des années 80, impliqué dans la lutte contre le sida au chevet des premiers malades. Comment dater ces années sida? Vous, dans votre frise, vous voyez les années sida de quand à quand?
Ben, je les vois à partir de 1981, okay. En fait, quand
c'est la première fois où vous entendez parler du sida?
C'est la première fois où j'entends parler du sida. Pourquoi? J'étais jeune médecin à l'époque, jeune médecin, jeune psychiatre, et des copains qui avaient créé un journal qui s'appelait Le Guépier, qui était un support communautaire pour la communauté homosexuelle, m'avait demandé de tenir une chronique médicale et psy dans ce journal. Et donc, je regardais un peu les dépêches médicales qui arrivaient pour être au courant pour cette chronique. Et j'ai commencé à arriver à voir les premières dépêches qui arrivaient des États-Unis, des dépêches d'alarme. à destination de la communauté homosexuelle et qui disait attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on comprend pas ce que c'est, on comprend pas à quoi c'est dû, mais de plus en plus de gens tombent malades et c'est une maladie très grave et il commence à y avoir les premières morts autour de cette maladie et on ne savait pas ce que c'était et on ne savait pas la nommer. Et c'est entre 1981, 82 et 83 qu'on a un peu compris ce que c'était, c'est-à-dire ce qui s'appelle un syndrome immunodéficitaire, c'est-à-dire que c'est pas directement le virus qui tue, mais il provoque une immunodépression et donc
comme le Covid,
comme beaucoup de virus, et donc il provoquait chez des hommes, je dis des hommes jeunes parce que c'était quand même beaucoup des hommes, un syndrome de Kaposi qui était une maladie très rare, ou une pneumocystose qui était aussi une maladie pas si courante que ça. Et il mourait très vite de ces deux maladies.
Comment on parle du sida ou comment on gère cette situation quand on est du côté de la psychanalyse, du côté du mental, du regard des autres et du moral ?
Alors, c'est une bonne question parce que, donc, d'un côté, j'avais cette vision à partir de ce journal, puis je commençais à avoir des amis autour de moi, vous en parlez, Marina Foïs, à cette époque, quand on était dans une bande d'amis avec,
des
sexualités diverses, on commençait à passer sa vie au cimetière, et en même temps, je commençais à diriger un centre pour toxicomanes, dans le 18e arrondissement, et dans ce centre, c'était des héroïnomanes par voie intraveineuse, et eux aussi, ils commençaient à mourir comme des mouches. Mes patients, je les voyais disparaître les uns après les autres. Et donc, il y avait une vraie urgence, une vraie sidération, à laquelle je dois dire les psys ont mis un petit peu de temps à répondre, ils comprenaient pas bien ce que c'était, ils comprenaient pas bien ce qu'il fallait faire, et donc ça nous a paru urgent, je ne dis pas je parce qu'on était évidemment un certain nombre autour de ça, à se mobiliser auprès des associations de lutte contre le sida, parce que les associations de lutte contre le sida, comme AIDE, comme ACT UP, ils commençaient à développer des outils d'autosupport, des outils de soutien pour les malades, des outils qu'on appelle l'empowerment, comment lutter, comment trouver en soi les forces pour lutter contre une maladie, et ils avaient beaucoup à apprendre aux psy-professionnels, parce qu'on n'allait pas allonger ces gens sur un divan pendant 10 ans pour savoir qu'est-ce qu'ils ressentaient. Et donc on a un peu hybridé nos savoirs, et j'ai proposé de créer à ce moment-là une unité spécialisée psy autour du VIH, dans laquelle on a reçu beaucoup de personnes évidemment concernées, qu'on a accompagnées jusqu'à la fin de vie, et on a accompagné les familles, les compagnons, etc. Des années terribles.
Ce que j'allais dire, quand on sait que l'issue est fatale, oui. quel discours est possible ?
C'est qu'on est là jusqu'au bout. On est là jusqu'au bout. Vous savez, il y a quelque chose que je trouve magnifique dans la pièce Les Idoles que j'ai vue à Odéon il y a quelques années, c'est que on retrouve toute cette force, toute cette rage et tout cet humour aussi. C'est-à-dire qu'il y avait chez ces personnes qu'on accompagnait jusqu'au bout une rage de vivre et je dis un humour, c'est terrible, mais une espèce de dérision qui nous apprenait beaucoup, finalement, sur le sens de la vie. Vous savez, les gays ont beaucoup, je pense, le sens de la dérision, parce que quand on a vécu une enfance, on a été harcelé, et on a été humilié et insulté, eh ben, on développe pour survivre un certain humour sur soi-même, je crois.
Vous avez dirigé l'ESPACE, qui est
toujours, d'ailleurs,
l'acronyme de Espace Social et Psychologique d'Aide aux Personnes Touchées par le Virus du Sida. Vous présentez l'émission Ruban Rouge sur France 5 en
95, oui.
Et
ouais.
Vous avez publié Sida et vie psychique, approche clinique et prise en charge. Le sida est toujours là ?
Le sida est toujours là, et d'ailleurs mon centre existe toujours, et on reçoit toujours des personnes qui sont touchées par le sida, mais ça n'a plus du tout le même aspect.
On en meurt encore ?
Non. Non. Peut-être. On meurt de plein d'autres choses, mais une personne qui contracte je devrais peut-être pas le dire, parce qu'il faut continuer quand même à se prémunir.
Se protéger,
une personne qui contracte le VIH aujourd'hui, elle a toutes les probabilités de mourir de bien d'autres choses que de ce VIH. Et puis là, c'est un work in progress, c'est-à-dire, je crois qu'on est en train de découvrir un vaccin. Là, j'ai lu quelques articles là-dessus récemment. Bon, je dirais que le VIH, on est en train d'en sortir. Il y a des traitements qui marchent, il y a des traitements préventifs aussi qui empêchent de se contaminer pendant la... Donc, si vous voulez, le VIH, c'est une ancienne...
Rassurons-nous, il y aura d'autres virus qui vont arriver.
C'est très probable.
Oui. Mais si je peux me permettre, j'avais fait un truc avec Aide il y a quelques années. Il y a encore quand même des discriminations à l'emploi, au logement, etc.
Bien sûr. Ah oui,
je
oui,
veux
oui.
dire, je suis pas sûre que la honte soit complètement évanouie ou l'idée du secret.
Tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr. C'est-à-dire que sur le plan médical, on est sorti de l'angoisse. Par contre, sur le plan
sociétal,
sur le plan de l'invisibilité sociale. On n'en parle pas, les discriminations existent toujours et on vous regarde effectivement toujours de travers si vous dites que vous êtes séropositif et à l'emploi, bien évidemment.
Merci beaucoup Serge Effez d'avoir apporté votre éclairage. Les Idoles au théâtre de la Porte Saint-Martin et tout de suite sur Inter, c'est Julie Conti.
Ah oui, bravo.
Dans 3 jours, il y a Donald Trump qui remménage dans la Maison Blanche.
Ah ouais, c'est vrai.
Et à cette occasion, son nouveau BFF, Mark Zuckerberg, il lui a fait une petite surprise. Il a supprimé le fact-checking, la vérification des infos sur les contenus publiés sur les plateformes de Meta aux États-Unis. Mais c'est un beau cadeau de pendaison de crémaillère, ça, hein.
Donald, tu es pas venu les mains vides. Tiens, voici la liberté de désinformation et de cyberharcèlement. Je me suis dit que ça changeait un peu de la bougie parfumée.
Oui, mais tu trouves ça moins facilement chez Maison du Monde, hein. Et à travers cette mesure, Zuckerberg dit vouloir mettre fin à la censure. Woke, c'est un terme technique pour dire ouais, on peut plus rien dire. Mais c'est super, il va pouvoir partir en tournée avec Sardou et Bigard, ce gland. Hein. Et vraiment, heureusement que Zuckerberg a fait une vidéo pour annoncer les changements de conditions d'utilisation parce que on les lit jamais en vrai ces trucs-là. Hein. Ça pourrait être écrit pour rester sur Insta, vous devez sacrifier votre premier enfant et acheter toute la discographie de Billy Crawford et on serait là.
Ouais, oui, j'ai bien lu et j'accepte les conditions d'utilisation.
Il y a 40 pages, on n'a pas le temps de lire tout ça. On est trop pressé d'aller regarder les vidéos pour apprendre des astuce inutile qu'on reproduira jamais. Tu savais que si tu mélanges une aubergine et de l'huile de moteur, ça fait une super pâte à crêpes. Purée, est-ce qu'on est con l'être humain, c'est quelque chose, hein. On la mérite l'extinction de masse qui nous pend au nez, quoi. Et pour être honnête, je sais pas si la vidéo de Marc qui annonce la fin du fact-checking sur Meta m'effraie plus parce que c'est le prologue à une phase encore plus chaotique et conflictuelle sur les réseaux sociaux ou parce qu'en la regardant, je me suis dit mais en vrai, il est pas mal, Mark Zuckerberg. Non mais attends, c'est quoi ce glow-up de malade? Le mec, il est carré d'épaule, petite chevelure bouclée, blondie par le soleil, t-shirt oversize et une chaîne en or qui brille. En le matin, j'étais un peu émoustillée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'excite comme ça? C'est la désinformation, hein? Allez, dis-moi des trucs cochons. Ah, la terre est plate. Ah oh, oui, encore. Brigitte Macron est un homme. Ah, oh, c'est bon. Oui, on n'y peut rien, hein, la misogynie internalisée. On aime ça, les bad boys qui nous parlent mal et veulent nous enlever nos droits. J'espère que le relooking, cool, ça va pas devenir une tendance chez tous les milliardaires. Hein. Je vivrais assez mal de me masturber en pensant à Vincent Bolloré. Je pense que lui aussi, d'ailleurs. Et avec Zuckerberg, terminé le nerd maigrichon avec sa frange trop courte qui lui donnait la ganache d'un gosse de 3 ans qui a joué avec les ciseaux de sa maman. Hein. Il n'y a pas que le style, il s'est mis au MMA, il poste des images de lui en train de manger une grosse côte de bœuf, il loue les bienfaits de l'agressivité en ligne et il a déclaré vouloir de plus de, je cite, énergie masculine. Non, mais il a à 2 doigts de répondre au spam. Cette pilule double la taille de votre pénis. C'est moi ou le petit Marc qui suit un programme d'influenceurs masculinistes pour réveiller le mal alpha qui sommeille en lui, hein. J'imagine ces programmes comme des cours de ski quand t'es gosse. Tu gagnes des médailles en fonction de ton niveau masculinité toxique. Mais à la place des flocons et des étoiles, les pins, c'est une paire de burnes. Et là, Marc, avec Zuckerberg, Mark Zuckerberg, entre la barbaque, le sport de combat et les mesures pour encourager les propos sexistes LGBTQIA-phobes sur les réseaux, il est à une agression sexuelle de décrocher les baloches d'or. Hein. Go, Mark, you can do it! Et vraiment, vraiment, nouveau, c'est un nouveau look pour une nouvelle vie. Parce qu'il y a seulement 4 ans, les comptes de Trump étaient suspendus sur Insta et Facebook. Et aujourd'hui, Zuckerberg, il laisse un blanc-seing à Trump pour y exercer son activité favorite. Le golf? Non! Raconter de la merde! Et dans ce domaine-là, Trump, il est meilleur que Tiger Woods. D'ailleurs, il n'a pas attendu que les conditions d'utilisation changent sur Meta pour raconter des conneries. Il a quand même dit qu'il voulait renommer le golfe du Mexique le golfe d'Amérique.
Ouais.
Du niveau du garçon, c'est possible qu'il pense que le golfe du Mexique, c'est un 18 trous. Hein, on peut quand même noter un joli progrès parce que maintenant, il renomme en mettant Amérique. Hein, avant, il mettait son propre nom partout. La Trump Tower, Trump Magazine, il y a même eu le Trump Steak. On dirait les parents qui écrivent les noms du gosse sur ses affaires avant qu'il parte en colo. Quoi. Et le programme de fact-checking sur les plateformes de Meta sera remplacé par des community notes comme sur X, X de l'autre pote de Donald, Elon Musk. Mais c'est pas une bonne idée, parce que le climat des informations et d'agressivité est tel sur X que de plus en plus de monde quitte la plateforme. Que ce soit des journalistes, des scientifiques, même des politiciens. Alors pas tous les politiques, parce que la présidente de la Confédération Suisse, Karine Keller-Sutter, vient juste de s'inscrire sur X. Bravo ma grande, hein, bah vraiment. Déjà les Suisses, on a la réputation d'être lents et notre présidente attend 2025 pour se foutre sur X. Bravo ma grosse. Hein. Non mais la Suisse, tout le monde se barre d'une fête et eux ils se disent « Ah bah tiens, on va y aller maintenant !» Non, franchement, c'est gênant tellement ça se voit que Zuckerberg cherche à faire copain-copain avec Trump. On dirait un gosse qui essaie de se faire des des amis dans la cour de récré. Hein. Il lui a filé 1 million pour sa petite sauterie d'investiture du 20 janvier. Donc avec ça, il a de quoi acheter des curlis pour tout le monde. Hein. Il a également désigné un fidèle de Trump à la tête des affaires publiques de Meta et un autre au conseil d'administration. Il a fait des UV pour approcher de son teint de peau. Et il a dîné chez lui à Mar-a-Lago. Et pour le dessert, eh ben, figurez-vous
quoi
qu'il l'a pompé.
Mais comment ?
Mais non, c'est pas vrai ! Mais avec les nouvelles conditions de Meta, j'ai le droit de le dire ! Voilà ! J'adore la liberté d'expression ! Bon voilà, après Musk et Bezos, maintenant c'est Zuckerberg. Trump, il a plié le game en posant ses conditions et les GAFAM ont prouvé qu'ils voulaient continuer de jouer et je crains le pire pour la suite de la partie parce qu'ils ont vraiment, ils sont vraiment prêts à tout pour gagner.
Ouais, merci beaucoup. Je vous dis... Très bien, première.
Ouais, elle me donnera les dates à la fin de sa tournée. Ouais, quoi.
Mélodie Fontaine, de quoi vas-tu parler dans la prochaine demi-heure ?
J'ai voulu refaire mon intérieur.
C'est Marine Lefebvre qui est notre invitée jusqu'à midi et demi sur Inter. La bande originale. Daniel Morin,
Mélodie,
et notre
invité
Marine
Lefebvre. Bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Pour les idoles au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir de ce samedi jusqu'à la mi-avril à peu près, Christophe Honoré signe le spectacle. Il y a également à vos côtés Marina Harrison Arevalo, Jean-Charles Cliché, Julien Honoré, Paul Kircher, Marlène Saldana, Lucas Ferraton. Marlène, comme vous, jouant des rôles d'hommes. Est-ce qu'on se pose la question à un moment de se dire, en tant qu'actrice, comédienne, jouer un rôle d'homme? Pourquoi ? Est-ce que c'est pour donner encore plus d'importance au fond et pas s'arrêter justement au physique, à la forme ou à la ressemblance ?
Peut-être que Honoré s'est accordé la liberté de penser à la personne qui lui faisait le plus penser à Guibert dans les acteurs qu'il aimait et qu'il se trouve que c'était une femme, peut-être ça. Après, là, on incarne ces gens-là. La question n'est pas non plus d'imiter. C'est pas l'exercice, quoi. Carrément. On n'est pas dans l'exercice du biopic.
Même Cyril Collard a un petit accent espagnol. Ce qui...
Il est colombien. Harrison Arevalo.
Ok. Voilà.
Ouais, voilà, c'est plus l'idée d'eux et plus peut-être la personnalité, le caractère que les signes extérieurs de.
Quand je disais tout à l'heure que dans le jeu il y avait toute une chorégraphie dans les déplacements, la mise en scène, il y a réellement une chorégraphie aussi. Ça, le spectacle ouvre justement
sur Jours étranges de Bagouet,
ouais.
Qu'on refait donc.
Un à peu votre mal,
parce qu'on n'est pas danseurs.
Comme quoi, comme des anges.
Mais
avec ces.
Oui, c'est une évocation. Oui, enfin, historiquement dans l'histoire de l'épidémie, dans l'histoire de Christophe Honoré, jeune artiste qui monte à Paris pour etc. Ça a beaucoup de sens. Dans le spectacle, c'est juste une entrée douce dans le.
Oui, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est on est dans au Panthéon, dans l'au-delà. Ouais. On est dans une réunion de ces idoles.
Mais on est aujourd'hui
un au-delà
aussi.
Un peu sexy en fait, ouais. Pas un au-delà pesant. Parce que l'idée de la vie après la mort, c'est chiant. Déjà, on a galéré pendant 80 ans, donc on va continuer après. Non, c'est en fait, il y a aussi un truc qui est assez présent sur le plateau et dans comment il raconte ça, c'est l'amitié. Et ce qui va lier ces gens, malgré leurs différences, leurs rivalités, parce qu'attention,
oui, il y a des
c'est tous des gens qui ont des ambitions artistiques immenses, ils veulent tous être le meilleur écrivain de sa génération, le plus grand scénariste, etc. Donc,
et
il y a cette rivalité.
Ils ont leur point de vue aussi sur.
Et ils sont pas d'accord.
Ouais,
et ils sont grave pas d'accord et ils s'engueulent sans complexe. Mais derrière ça, il y a une amitié profonde qui, à la fin, nous lie, nous, les acteurs sur plateau, je crois. Mais qui a lié, c'est ce qu'il racontait, je veux dire, les associations, dans la solitude des gays malades, probablement, sont arrivées des très belles histoires d'amitié et des très belles histoires d'amour et de solidarité. Ils ont compensé ce qu'ils obtenaient pas de leurs adultes. Parce que c'est ça aussi, cette maladie-là. On pouvait pas, jeunes, ces quasi-enfants ne pouvaient pas compter sur leurs parents ni sur les adultes pour les encadrer, pour les soutenir, pour les aider. C'était des morts très solitaires et je pense qu'ils ont compensé cette solitude-là par la solidarité et l'amitié. Ça, c'est beau.
Et ça pose aussi la question de ce qu'il serait devenu aujourd'hui, parce que quand on relit par exemple du Renaud Camus, et qu'on se dit que ça a été un auteur qui a pu inspirer nombre de ces personnalités qui sont sur scène, et de découvrir qu'il écrit Le Grand Remplacement, là ça donne lieu à une scène très drôle,
qui ouvre le spectacle.
Mais qui interroge aussi sur ce parallèle qui est fait entre le Rassemblement National, enfin l'extrême droite, et l'épidémie de sida.
Oui, en fait, la question de d'une certaine manière, et ils le disent, ils auront la chance de mourir jeunes, en fait. C'est-à-dire la question de qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va s'adapter à ce monde qui bouge et tout ça, ne se posera pas. Ouais. Par ailleurs, pour cette génération-là, il y a quand même plein de jeunes qui apprennent leur séropositivité dans les années 90, qui se croient, qui pensent qu'ils sont condamnés, et puis qui, en fait, vont survivre parce que arriveront les trithérapies, tout ça, ou parce que tout simplement il y a aussi des séropos qui n'ont pas développé la maladie, qui sont des cas assez étranges, mais il y en a. Et ces gens-là, un jour, vont découvrir bien plus tard, autour de 50 ans, qu'en fait, ils sont pas morts et qu'ils vont pas mourir tout de suite, et que la vie va continuer. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, le film de Gaël Morel.
Oui.
Donc j'ai oublié le titre qui est sorti. Vivre, mourir et... bref, très beau film sur ces années-là. Il raconte aussi ce que c'est que de découvrir un peu tard
vivre, qu'on va pas mourir, renaître.
Voilà, qui est un très beau film et qui raconte aussi. C'est des gens. Ils n'ont pas fait d'études. Tu apprends que tu es condamné à 22 ans. Tu arrêtes les études. Tu ne cherches pas un métier qui te passionne. Ouais. Tu cherches à survivre et tout ça. Donc, c'est des gens qui ont dû se réinventer encore une fois quand la perspective de la mort s'est éloignée. C'est des gens qui, potentiellement, je connais une fille qui a fait des enfants, même si elle était séropositive, etc., comme elle a pu. Et puis, elle a élevé ses enfants dans leurs premières années en se disant qu'elle ne les verrait jamais grandir. Et bien, en fait, elle va être grand-mère. Ce qui est une chance. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Quand la perspective de la vie et bouleversé à nouveau.
Quel est votre rapport, vous, à la mort? Si vous aviez cette espèce de compte à rebours qui se pointait.
Alors moi, j'ai très très peur de la mort des autres. La mienne, parce que je crois que je suis immortelle, donc je me la pose pas.
Pardon,
Sorry. Okay. Non, elle est pas aussi...
Je suis une star.
Je suis une star. Eh oh, j'ai plein de followers sur Instagram, donc je ne vais pas mourir, ok?
J'accuse la
Non, mais en fait, comme il se trouve que moi, j'ai déjà perdu des gens, et que je trouve ça inadmissible, mon inquiétude, elle est celle-là. Je ne veux pas perdre mes amis. Parce que on parle souvent de la mort des parents. Ok. Mais a priori, c'est un peu programmé. On sait que ça va arriver. Je suis ok avec cette idée, ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste. Mais la mort de mes amis, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas comment je vais faire quand les gens qui sont mon quotidien, mes amours, je ne sais pas comment je vais faire. Et je ne suis pas d'accord avec cette idée. Donc, à la limite, je préfère mourir avant eux.
Les Idoles, c'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à partir de ce samedi 18 janvier jusqu'au 6 avril, du mardi au vendredi à 20h, samedi 20h30, dimanche 15h. On en parle jusqu'à midi et demi, mais voici Mélodie Fontaine qui refait son intérieur.
Alors, attention,
oui.
Pas l'intérieur de mon corps, hein, ça relève du gros œuvre et j'ai pas le salaire. L'intérieur de mon appartement. Ah. Et hélas, je me suis aperçue que j'en étais incapable, tout bonnement incompétente. Je suis nulle à chier, une chèvre. Pire, une chèvre handicapée moteur. Une chèvre-tron, aveugle, avec Parkinson. Bref, une buffe de chèvre soignon dans un lave-linge. Hein, voilà. Je ne sais pas planter un clou, mon Dieu. Ni planter des choux, d'ailleurs. Vous savez, vous plantez des choux? Alors, je ne sais pas me nourrir seule, me chauffer, me défendre. C'est pas dans du coton que je vis, c'est au rayon super moelleux de la maison de la literie. Alors, en cas d'apocalypse nucléaire, les gars, quoi, c'est glauque? Oui, bah c'est pas impossible, non, hein, je suis parano, mais avouez, rapport aux hyper zinzins qui dirigent la planète, ça nous pend tellement au nez que bientôt c'est le nez qui va pendre, hein, les gars. En cas d'apocalypse nucléaire, je peux vous assurer que pour ma part, ça va piquer. Hein. Ah, ça va pas être la roue de Cormac McCarthy, mais la biroute de Morbach mal parti. Hein. Oui, j'ai mes rêves, pour une fois, qu'on soit des gens de culture, pardon. Hein, vous êtes costauds, vous avez l'air tous débrouillards. Moi, ma priorité dans ce monde dévasté, ce serait de creuser un trou pour passer la nuit. Je mangerai mes crottes de nez et je boirai l'urine que j'aurais déjà bu. L'objectif, éviter de me faire repérer par les bandes de dégénérés affamés de viande et de sexe. Je tiendrai pas 12 minutes, je pense. Et encore, j'en passerai 3 à supplier et 8 à servir de gants de toilette remplis de nouilles. Non mais, dans une dystopie post-apocalyptique, ma durée de vie serait si courte que j'aurais même pas le temps de crever de faim. Ah, je vous jure, avec les mutos tarés, j'aurais pas grand-chose à bouffer sur ma carcasse bossue. Faut avouer que me nourrir dans la nature, j'ai vraiment pas un profil de chasseur, quoi. Carrefour sans panier, c'est le max de mes compétences en matière de survivance. Et encore, je suis en panique quand les sauces changent de rayon. Donc pour vous dire. Non, pour m'entraîner, je regarde des émissions de survie du coup. Les mecs commencent à poil dans une forêt en Australie, vous l'avez vu? Non. Leur premier réflexe, c'est ce que c'est?
J'ai vu.
Ah, les boules et les chocottes. Leur premier, ça s'appelle comme ça. Je vous jure, leur premier réflexe, c'est quoi? Se tresser un slip. Oh. Oui. Alors au début, j'avoue, j'ai trouvé ça con à se laver les oreilles avec un fusil. Et puis j'ai appris qu'en Australie, des serpents gros comme un enfant de 4 ans pouvaient sortir des chiottes en entrant par les canalisations. Alors t'es au Wawa en train de canner, tu veux souffler après un burger de kangourou, libérer tes 500 grammes de marbac et tu te manges une épisio par un reptile de l'espace. Je fais oui, je comprends le slip. Oui. Bref, dans l'émission, alors je le dis, il y en a tellement d'ailleurs des émissions comme ça, mais il y a plus d'émissions de ça que des débats d'idées quand même. C'est là où je me dis que ça doit être un signe, faut qu'on s'inquiète. Hein. Bon, c'est pas grave. Bref, dans celle-ci, les mecs sont tous fiers, là, dans leur slip en basilic qui leur parfume les boules, et ils décident de cueillir des baies. C'est la base, hein, ils disent, les connaissances qu'il faut pour cueillir des baies, et eux, ils sont préparés en plus. Moi, tu me jettes là-dedans, c'est le remake d'Into the Wild, ça dure 4 minutes de film, générique compris. Hein. J'ai pas le temps d'atteindre le bus, le machin, c'est un plan séquence de moi qui me vide de caca et tout. Non, mais c'est vrai. Alors, imagine te nourrir avec une guerre nucléaire, la seule source de nourriture à ta dispo, c'est des lézards, tu sais, mais des lézards tellement irradiés que c'est eux qui te courent après. Et ils sont comme Lisa, ils essaient de te choper par la queue, ça repousse pas, ça repousse pas! Ça pousse pas.
C'est pas vrai.
Puis vient la question de l'eau. Et là, c'est pas forcément les plus forts physiquement qui peuvent s'en sortir. J'en suis sûr hein, qu'il y a des cerveaux comme Leïla qui vont développer des techniques pour en trouver sous terre ou modifier des molécules pour en créer à partir de capotes usagées ou je sais pas quoi. Mais moi, je suis con comme une mythe, les gars. Pour peu que je sois. Non, mais c'est vrai, pour peu que je sois près de la mer, je serais capable de boire de l'eau salée entre des poissons poilus. Ça se boit pas, ça se boit pas, on le sait que ça se boit pas. Alors, je vous en supplie, messieurs les présidents du monde. Faites pas ça, ne nous laissez pas aux mains des dégénérés, des lézards et des poissons poilus. Pensez à moi qui ne suis pas sûr de faire mes nœuds de basket correspond. N'appuyez pas sur le bouton, je vous en supplie.
Merci.
Mélodie Fontaine, ouais.
Les lundis et mardis au point virgule à 20h et aussi en tournée les 17 et 18 janvier, c'est à Aurès et par là.
À 20h à partir de ce samedi 18 janvier au théâtre de la Porte Saint-Martin, les Idoles, d'autres événements culturels, Leïla.
On va parler du créateur de la série Squid Game qui a sorti son deuxième opus, la saison 2, récemment. Il a confié dans une interview donnée à la BBC qu'il lui est arrivé quelque chose d'assez étonnant, de singulier, lors de la création de la première saison. D'après vous, de quoi s'agit-il? C'est médical.
Médical?
Ouais.
Une erreur médicale?
Non.
Il a développé un truc?
Il a développé, oui, enfin développé, non, mais enfin il s'est passé quelque chose.
Il a subi quelque chose. Il a été malade.
Le stress a occasionné quelque chose chez lui d'assez.
Des boutons.
C'est pas des boutons.
Un bouton rouge.
Il a perdu la vue. Il a pas perdu la vue, mais il a perdu quelque chose. Pas les cheveux.
L'odorat.
Non plus.
Le sexe.
Il a perdu son sexe.
Il a perdu son sexe.
Non, pas la bite. Et...
Son portefeuille. Ah non, c'est pas médical.
Il a perdu des dents. Il a perdu 7 à 8
quelle
dents.
Horreur.
Quelle horreur.
Absolument. Le stress, vraisemblablement, sur lui a occasionné. Alors peut-être qu'il s'est un peu moins brossé les dents, je ne sais pas, je ne suis pas parent en 10.
C'est le crack, mais... ouais.
Non, non,
ouais,
c'est ça.
Mais
c'est horrible.
Ouais. Bah, c'est horrible. 7 à 8 dents.
Moi, parfois, je rêve que j'ai des dents molles.
Oh là là. Ouais, ça dit quelque chose en psychanalyse.
Oui, je sais pas, faudrait rappeler ça.
C'est pas la mort, je crois, quand on
tombe.
La mort, c'est quand les dents tombent. Mais quand les dents ramollissent, je ne vois pas.
Oui, mais le vrai sens des rêves, c'est pas aussi.
Je sais pas.
Je crois.
C'est la vérité, Marina.
Ah, pardon, excusez-moi.
Et en effet, quand on est confronté à un gros stress, il peut y avoir plein de manifestations physiques. On peut perdre ses cheveux tout d'un coup.
C'est Daniel.
La première fois que j'ai rencontré Nagui, j'avais une choule comme ça. 10 minutes après, on peut avoir un genou.
Comment se manifeste le stress chez vous, la peur? Est-ce que il y a une manifestation? Est-ce que vous c'est cutané? Est-ce que c'est physique? Est-ce que votre corps vous dit quelque chose parfois avant que vous ne le sachiez?
Si je somatise et tout.
Ouais.
Oh bah oui, bien sûr, oui.
Et ça,
je peux tomber. Ça n'a pas grand intérêt. Je fais des chutes de tension, moi. Donc en fait, je deviens très molle comme ça et je peux dormir pendant 3 jours. Voilà.
Ouais. Bon. Et ça, c'est les manifestations, quoi, face à un nouveau projet, quelque chose de.
Ah non, j'ai pas. Je suis un peu. Je me mens un peu à moi-même. Je fais semblant que j'ai jamais le trac. C'est ce que je me raconte, moi. Donc je comprends. Après, je me dis, ah, putain. Oui, en fait, t'étais très désagréable avec tout le monde. Donc tu devais être stressée. Mais.
si je me raconte comme ça, je vous dirais que j'ai pas très peur du travail, ce qui certainement est pas vrai. Voilà.
Ouais.
Sur les idoles, c'est l'occasion d'essayer de nouvelles choses par rapport à...
Ah oui, puis j'espère qu'on va essayer de... J'espère que je vais essayer des nouvelles choses tous les soirs, en fait. J'adore...
Parce que plus en confiance de l'avoir déjà fait, parce que...
Parce que surtout, je crois que c'est mon contrat, c'est ce que je dois faire. C'est-à-dire que je dois commencer chaque soir en me disant je sais pas ce qui va se passer. J'espère, c'est mon ambition.
Et c'est une exploitation hyper longue, parce que vous allez jouer hyper du 18 long. Janvier au 6 avril, ce qui n'est jamais la durée d'exploitation d'un spectacle dans le public.
Non.
Généralement, c'est quoi, 3 semaines?
Ouais, c'est voilà. 5-6. On l'avait joué 5-6 semaines à l'Odéon, et là, on va le jouer 60 fois. Et ça me fait très peur.
Ouais, la perspective d'être sur scène autant de fois.
Je ne supporterais pas de faire ce spectacle-là de manière mécanique, d'avoir des réflexes de jeu. Donc, je vais essayer d'être plus exigeante avec moi-même.
Mais bon. Autre question, on cherche un réalisateur qui aurait pu adapter la saga Harry Potter. Mais les studios Warner Bros. Ont eu un peu peur de sa proposition.
Spielberg.
Non, alors il est né dans les années 60.
Spielberg.
Il a réalisé beaucoup de films, quelques séries notables comme Mindhunter, House of Cards. C'est lui qui réalise et qui produit même. Si je vous donne des noms de films, vous allez trouver plus facilement.
Fincher ?
Absolument. David Fincher, qui a été contacté par les studios Warner Bros. Au moment où il voulait adapter donc la saga Harry Potter. Mais il est arrivé avec une proposition. Il voulait que ça soit un film qui réunisse, mais qui fasse très peur. Donc Warner Bros. S'est dit non, nous on est plutôt parti sur quelque chose de détendu, hein, vraiment, parce que c'est pour les enfants.
Ça fait peur, Harry Potter ?
Oui, les premiers.
Monstres.
Ouais, bah, mais si c'est regardable encore pour les enfants.
Ah ouais, moi j'ai fait des cauchemars.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Lui voulait faire quelque chose qui fasse.
J'ai les dents molles et tout.
T'as des boutons.
J'ai des pertes de tension.
J'ai dormi des heures, j'ai un gros.
On parle beaucoup de films de genre, de films différents, de films d'épouvante. Je vous ai vu dans des films un peu atypiques. Je pense à L'année du requin. Je pense à des projets comme ça. Est-ce que c'est un. Il y a des projets en ce sens qui arrivent?
En film de genre?
Ouais.
Non.
Magma?
Enfin, je fais.
Si, Magma quand même.
Oui, ça fait. Oui, c'est vrai. Magma, il y a une rêve, c'est un film catastrophe sans tout à fait avoir les moyens des films catastrophes.
Ouais. En quelques mots, ça se passe à La Réunion, vous êtes volcanologue. Voilà. À la Guadeloupe.
À la Guadeloupe,
Vous êtes volcanologue et.
Le volcan se réveille.
Au moment de dire non, mais tout va bien, on gère, en fait, le volcan est de plus en plus énervé. Et là, il faut gérer à la fois les politiques, la population qui s'inquiète, et puis. Et aussi le jeune que vous formez et que vous conseillez à vos côtés.
Je vais par Théo Christine profite. Et mon filleul au César. Ah, voilà. Ouais. Et qui sera peut-être dans les 5 révélations cette année.
Souhaitons-le.
Bien sûr, on le souhaite. Moi, je suis en campagne pour lui.
Non, mais donc, c'est un film de genre.
C'est déjà un film de genre, ouais.
Oui, c'est un film de genre, sauf qu'il réinvente le genre parce que, évidemment, il n'a pas les moyens des films américains, mais parce que aussi l'idée, c'était de justement, comment on peut contourner le genre, qui est un truc assez générationnel dans le cinéma français. Depuis quelques années, les jeunes metteurs en scène, ils s'attaquent avec beaucoup de distance, d'humour, de talent, ils réinventent le genre. C'est vraiment un truc générationnel, je crois, et ça donne des vraies réussites, Mais non, j'ai pas. Si, je vais faire la série Netflix. On fait la saison 2 de Fury. Oui. C'est une série d'action. Oui. Donc c'est du genre.
Et biopic aussi, c'est du genre. La femme la plus riche du monde, c'est l'affaire Bettencourt, c'est ça?
Rien à voir.
Ah bon,
alors rien à voir. C'est juste une femme très riche qui a la tête d'un empire de cosmétiques. Il va y avoir des problèmes d'héritage. Mais alors sinon, je vois pas où vous pouvez faire le lien.
Il y a un photographe ou... Non, il y a pas de photographe.
Il y a un photographe. Il y a un homme qui fait de la photo. Je sais pas.
Est-ce qu'elles sont réussies?
Non, mais en fait, c'est une histoire qui est très librement. Je réponds en rigolant, mais la vérité, c'est que c'est une histoire librement inspirée des Bettencourt, mais c'est pas un biopic.
Isabelle Huppert, Laurent Lafitte partagent l'affiche avec vous. Il y a donc ce film Magma de Cyprien Vial qui sortira le 5 mars prochain. Et Simone Signoret aussi que vous allez incarner.
Que j'ai ? Ça y est ?
Oui.
Je l'ai fait.
Ça, c'est un biopic.
Oui, ça, c'est un biopic.
Ça sortira quand ?
Alors, apparemment, le 1er octobre.
D'accord. Diane Curie,
Diane Curie qui réalise, Roche Dizem qui fait Montant. Voilà, c'est un espèce de...
Et Thierry de Peretti en Serge Reggiani.
Ouais. absolument. C'est un biopic, mais qui est pas formellement pas très classique, puisque évidemment, je ne pouvais pas jouer Simone à l'époque Casque d'Or, où elle a 30 ans et elle est d'une beauté renversante. L'idée, c'est de raconter vraiment l'intérieur de ce couple qui, évidemment, est un couple d'acteurs. Voilà, de ses 50 ans, des 50 ans de Simone, jusqu'à la fin, elle est morte en 85 à 64 ans, ce qui est très jeune, mais très jeune, ouais. À l'époque, ouais. Mais les 50 ans de l'époque sont pas tout à fait les 50 d'aujourd'hui.
Elle avait que 54 ans ?
Non, elle avait 64.
64 ans, pardon.
Ouais. Ouais. Voilà.
C'est fou, ouais.
Voilà.
Vous allez également jouer avec Louise Bourgoin et Michel Esco dans Je le jure de Samuel Taïs, qui sortira aussi au mois de mars, le 26 mars, qui est une... c'est sombrer dans l'alcool, c'est ça, c'est le personnage... J'ai dit une bêtise ? Je parle pas du vôtre, hein, de personnage, hein. C'est un homme qui tombe, qui se cache dans l'alcool. Pas du tout.
Non. Ah, bah, c'est l'histoire d'un, en gros, c'est l'histoire d'un procès dans le point de vue d'un juré.
D'accord. Ok. Bah, j'ai pas du tout le
pitch. Un juré d'assises, c'est ça. Un juré d'assises et un procès autour d'un
pyromane. Non, c'est un alcoolique qui va juger un jeune qui est dans le juré et qui.
Un pyromane qui est accusé d'homicide, c'est pas ça?
Ok.
C'est le procès en appel d'un jeune pyromane, absolument. Voilà. Qui, en foutant le feu à un immeuble, a causé la mort d'un pompier.
Des excuses, à part celles que je vais formuler de ne pas avoir fait le bon pitch, Daniel Morin.
Oui, bien sûr, désolé pour Christophe Honoré, l'équipe du Théâtre Saint-Martin, les autres comédiens des Idoles, très très impliqués dans le projet, tous ceux qui ont découvert ce matin une Marina Foïs qui ne savait pas du tout, mais du tout, à quelle heure avaient lieu les représentations de la pièce. Voilà, s'en foutait-elle pour autant? Oui, sûrement. Désolé pour tous ceux qui n'ont pas compris le message anarcho-laitier de Rebecca Balestra et qui ont pris sa chronique pour une avalanche de blagues à boobs. Non, c'était un cri pour la liberté d'expression torse nu, en colère couverte de candy à demi écrémé. Tout simplement l'expression rageuse et artistique d'une femme libre qui refuse d'être réduite à une machine à lactose au service d'un patriarcat lactophile. Merci pour ce cri. Désolé pour Nagui qui a découvert comment fonctionnait Christophe Honoré en laissant parler tout le monde. En autorisant les à pratiquer l'échange. Tout ça, Nagui, regarde-moi, dans un esprit de bienveillance.
Ah, bon
ah bah dis donc. Hein.
Comment t'écris ça?
Le Moubarak du service public, il est bouleversé. Il a de savoir que ça existe, l'esprit de monde. Ben non, finalement, pas si bouleversé que ça. Ah, le Fennec du pont de Grenelle. Il s'en fout.
Les Idoles, totalement. Les Idoles, Harrison Arévalo, Marina Foïs, Marlène Saldana, Julien Honoré, Jean-Charles Cliché et Paul Kircher. À l'affiche.
Et Lucas.
Et oui, absolument. À l'affiche de cette pièce, à partir donc de demain au Théâtre de la Porte Saint-Martin, les Idoles. Merci Marina.
Et il y a les Doors aussi qui sont sur scène.
Oui, la preuve. When the music's over here. Et vous savez donc. C'est fou. Céleste Brunkel et Vincent De Dienne seront nos invités lundi. Passez un très bon week-end, merci.
Ils vont jouer là, ils jouent la Garce.
Ah oui.
Oui,
absolument.
À l'atelier.
À l'atelier.
Ouais. Bonne réponse.
Exactement. Passez une belle journée, un bon week-end à lundi.
Oui. Ouais.